Car il s'agit là d'une définition de l'inconscient, ce que les autres ne sont pas. Si Lacan avait gardé la formule « la politique, c'est l'inconscient », ce serait plutôt une définition de la politique par rapport à l'inconscient que de l'inconscient par rapport à la politique. Il me semble important de garder à l'esprit que cette formule date des 67, plus précisément lors du séminaire La logique du fantasme, c'est-à-dire qu'elle date d'avant l'élaboration des quatre discours, des avancées sur la langue et sur l'inconscient réel. Patrice Dahan a bien contextualisé ces passages lors du séminaire précédent. C'est que Lacan entendait par l'inconscient c'est la politique, à ce moment précis de son enseignement, s'y trouve éclairé, me semble-t-il, dans la suite immédiate du passage en question, passage que je vous cite, « Je veux dire que ce qui lie les hommes entre eux, ce qui les oppose, est précisément à motiver de ce dont nous essayons pour l'instant d'articuler la logique. Ces débuts de phrase, « je veux dire que » est une expression qui indique que Lacan expliquera lui-même ce qu'il venait d'énoncer. La déduction me semble relativement simple, je vais me tromper. Ce qui motive selon lui les liens des hommes entre eux, c'est les fantasmes. Parce que c'est cela dont il essaye d'articuler la logique dans ses séminaires. Évoquer ce qui lie et ce qui oppose les hommes entre eux est une sorte d'ébauche de ce qu'il va élaborer 2 ans plus tard sur les discours comme forme de lien social. Freud était déjà aperçu, et avait beaucoup élaboré sur l'inéluctable et malaisé rapport de l'individu à la civilisation, ayant souligné d'ailleurs que les relations des hommes entre eux constituaient leur plus grande source de souffrance. Avec l'articulation des discours, Lacan rend compte de la structure des différents types de liens sociaux qu'il a pu repérer à un moment donné de notre civilisation et qui sont jusqu'à présent 4. Ce qui veut dire qu'il les différencie l'un de l'autre, introduisant par là une nouvelle approche de la politique, car chaque discours ordonne les liens entre les corps, commandant à des jouissances types, générant une certaine forme de politique. Je ne rentrerai pas davantage ce soir sur la question des discours, je pense que d'autres collègues vont revenir, car mon intérêt aujourd'hui est autre. J'aimerais commencer par préciser, de façon très brève, pour dire par quel biais j'aborde la question de la politique. Je vous propose que l'on réduise au maximum la définition de la politique comme l'art des finalités ou l'art des fins, auquel il faut ajouter pourtant un autre aspect qui me semble inéliminable dans n'importe quelle définition de la politique, qui est celui du collectif, fut-il d'un collectif minimal composé de 2 individus, comme c'est le cas dans les discours analytiques. On peut même concevoir, ce fut le cas pour Aristote, une rhétorique avec un public composé d'un seul juge. Mais, donc, point de politique d'un individu tout seul. Je me suis alors demandé ce qui a amené Lacan à définir l'inconscient par la politique à ce moment-là. Et cela m'a évoqué une référence analogue, beaucoup plus ancienne et très répandue, qui affirme que l'homme est un animal politique. Pourquoi a-t-on pu dire de l'homme, il y a plusieurs siècles, qu'il est un animal politique? Cette définition de l'homme comme animal politique remonte à Aristote, et j'ai trouvé particulièrement intéressant la façon dont il est venu à établir cette définition, justement dans son traité intitulé « Politique ». C'est d'un passage de ce traité, d'ailleurs, que j'ai tiré le titre de mon intervention, dans la jolie traduction qu'en fait Barbara Casson, dans un ouvrage qui s'appelle « Aristote de Logos, compte d'une phénoménologie ordinaire ». Ouvrage qui a attiré mon attention sur les points que je vous propose de développer maintenant. Au début de son traité, Aristote affirme que l'homme est par nature un animal politique. Mais il n'est pourtant pas le seul. Dans l'histoire des animaux, les philosophes disent que sont politiques ceux pour qui s'y fait une certaine unité et une communauté partagée par tous dans les domaines de l'œuvre. Ce qui ne font précisément pas tous ceux qui vivent en groupe. Mais c'est le cas pour l'homme, l'abeille, la guêpe, la fourmi et la grue. Être grégaire ne suffit donc pas pour être politique. Il faut rajouter la notion d'action concertée. On est forcé d'admettre que la concertation naturelle de l'action des abeilles ou des fourmis peut faire rêver tous ceux qui aspirent à engager une action collective, n'est-ce pas? L'homme n'est donc pas, pour Aristote, le seul animal politique. Je fais ici une toute petite parenthèse parce que l'expression « animal politique » qui en grec veut dire « zoion politikon » a été traduite par la tradition par Sénèque et après relayée par Thomas d'Aquin comme « animal social ». Mais ça vient au départ d'animal politique. Et ces glissements sémantiques engendrés par la traduction rendent difficile de penser la distinction entre privé et public. Alors, pourquoi Aristote affirme-t-il que l'homme est plus politique que l'abeille ou la fourmi? Parce que l'homme est le seul d'entre les animaux à avoir le langage. Ça, c'est Aristote. Le développement d'Aristote est plus pointu encore qu'il n'en a l'air, car il affirme aussi que certains animaux possèdent ce qu'il appelle, en grec c'est la phoné, c'est-à-dire les sons vocaux. C'est-à-dire qu'avec des sons vocaux, certains animaux, dit-il, arrivent à signifier les uns aux autres la douleur et les plaisirs. On pourrait dire qu'ils ont une sorte de communication instinctuelle par la faune et par les sons. Mais l'homme, lui, est grégaire, comme de nombreux autres animaux, mais il a aussi les langages, les logos en grec. Ce qui est tout autre chose que la simple faune. Et comment Aristote définit-il les langages dans ces passages? Je les cite. Les logos, c'est-à-dire le langage humain, est fait pour manifester l'utile et le nuisible, et par conséquent, le juste et l'injuste. Tel est en effet le propre des hommes par rapport aux autres animaux. Être seul à avoir la sensation du bien, c'est le mot sensation, hein, du bien et du mal, du juste, de l'injuste et du reste. Or, dit-il, c'est la conclusion, la mise en commun de ces sensations fait la maison et la cité, dans le sens des politiques. Seul l'homme, donc, possède le langage, ce qui l'arrache à la classe naturelle des autres animaux grégaires qui ont pourtant la phoné. Il s'agit d'un langage qui implique, comme l'a noté la dernière fois Patricia Dahan à propos d'un historien, qui implique la possibilité de la fiction. Ce qui fait maison et cité, c'est la tentative de mise en commun, koinonia en grec, des sensations par les langages. C'est en cela qu'Aristote considère que l'homme est plus politique que n'importe quel autre animal grégaire, cette mise en commun des sensations par les langages n'allant pas de soi. À relire ainsi Aristote, sous le prisme de la psychanalyse, je me demande si on ne pouvait pas admettre qu'inconscient et politique partagent donc une analogie structurale, à savoir qu'ils sont tous les deux effets de langage. Revenons maintenant à notre thème, l'inconscient de la politique. Dans l'étourdi, Lacan affirme que l'inconscient est en fait en tant qu'il se supporte du discours même qu'il établit. Il s'agit là, bien entendu, du discours analytique articulé par Lacan, à partir du dispositif des paroles créées par Freud. C'est ce discours qui établit l'inconscient, c'est-à-dire celui qui permet qu'on le déchiffre. Le déchiffrage analytique révèle, en effet, la dimension politique inhérente à l'inconscient. Affecté par les langages, les désirs du sujet et l'objet qui les cause, s'y constituent dans une dialectique à l'autre que l'analyse dévoile, du moins en bonne partie. Les rapports aux autres, qui vont de la maison à la cité, pour reprendre les termes d'Aristote, sont ainsi pris dans un scénario logique bien rodé que l'analyse pourra, à terme, faire basculer. C'est l'un des effets thérapeutiques majeurs de l'analyse, celui qui touche les symptômes socialisants du sujet, pour reprendre une expression forgée par Colette Solaire dans Lacan, l'inconscient réinventé. Ces symptômes sont socialisants parce que la jouissance qui est impliquée, je la cite, pour si peu liante qu'elle soit, s'y loge dans un lien, du fait de s'énouer à l'imaginaire et au symbolique du partenaire. C'est certain, là nous sommes dans l'inconscient politique. Mais un problème s'y pose alors. Si l'on considère que cet inconscient langage, générateur des symptômes socialisants, n'est pas tout l'inconscient, mais seulement une partie. Et c'est ainsi que j'arrive à me poser une question complètement anachronique, je parle de réponse, hein. Elle est anachronique, certes, mais je ne peux pas ne pas nous la poser. C'est-à-dire, peut-on étendre la définition « l'inconscient, c'est la politique » à l'inconscient réel hors chair? C'est une question. Rien de moins évident. L'inconscient réel est antinomique lien. Pas d'amitié n'est là qui cet inconscient le supporte, dit Lacan dans la préface à l'édition de Semler 11. Par ailleurs, la jouissance opaque du symptôme qui vient du réel, qui jouit de l'élément langagier, de la matérialité de l'inconscient, s'y passe du partenaire autre. Ce n'est pas une jouissance facilien. Mais peut-on affirmer pour autant que l'inconscient réel exclut toute dimension politique? L'une des possibilités de réponse à cette question serait de relier la politique, in fine, au banc de langage du tout petit, à l'origine des dépôts langagiers qui formeront sa langue. Il est certain que ces éléments ne lui sont pas advenus ex nihilo, mais ce n'est pas cet aspect que j'aimerais développer. La question qui m'intéresse dans mon propos d'aujourd'hui est la suivante. Est-ce que la fin de l'analyse change-t-elle quelque chose à la politique d'un sujet? Si toute l'analyse est didactique, comme l'a affirmé Lacan, chaque sujet sort de son analyse instruit de ce qu'elle lui a appris sur son propre inconscient et sur les jouissances qui s'y logent. Par conséquent, le sujet doit sortir également instruit de la politique, ou devrait instruit de la politique qui est corrélée. La question me semble pourtant complexe, car le savoir livré par l'analyse ne délivre pas les sujets de ces modes de jouissance, qui l'inconscient continuera de chiffrer. L'analyse peut cependant les, entre guillemets, redimensionner. Elle peut, par exemple, dévaluer de façon durable la jouissance, en deux mots, liée au fantasme, promouvant la séparation d'avec l'hypothèse d'un grand autre traumatique. C'est un changement majeur par rapport aux autres et au monde, que l'on pourrait appeler peut-être politique. L'analyse produit aussi un sentiment de fin, une arrêté de jouissance inéliminable et hors lien. Les sujets pourra s'identifier éventuellement et savoir y faire une conduite aussi éventuellement. Peut-on y avoir cependant quoi que ce soit de politique. S'il y a quelque chose de politique à cela, je le situerai plutôt au niveau des conséquences de la production de cet incurable. C'est-à-dire que le sujet qui a perçu la dimension réelle de son inconscient et de la contingence des fixations de jouissances qu'il peut enfin assumer est un sujet qui pourra supporter autrement les différences radicales entre les êtres parlants. Il est d'ailleurs avéré que l'analyse, tout en produisant des sujets assurés de leur castration, ne produit pas pour autant des sujets apolitiques ou asociaux. Loin de là. Outre les effets subjectifs que nous connaissons, une analyse produit des effets au niveau des liens. Elle ouvre les nouvelles possibilités aux réalisations les plus effectives et aussi bien aux réalités les plus attachantes, comme l'a dit Lacan dans la note aux Italiens, se référant au champ du travail de l'amour. Mais les changements politiques les plus étonnants d'une analyse est sans nul doute les passages de l'analysant à l'analyste. Comment se fait-il qu'après avoir éprouvé ce qu'est l'inconscient et les limites du savoir que l'on peut en tirer, quelqu'un puisse souhaiter encore renouveler cette expérience pour d'autres sujets? Là résident les mystères les plus frappants du discours analytique, en effet politique, me semble-t-il, qui même les dispositifs de la passe a du mal à cerner. Il est certain qu'une école de psychanalyse, composée par des épars des assortis, que, du surcroît, sont des savants d'un savoir dont ils ne peuvent pas s'entretenir, ne pourra jamais fonctionner comme une ruche.